Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cycle de cours, de trois cours sur Torah et justice sociale. En fait, ce thème a été inspiré par un dossier qui a été proposé il y a une dizaine d'années par Pardes, qui s'appelait « Judaïsme et économie ». Alors, bon, moi je ne suis pas économiste, donc je n'aurais pas idée de parler d'économie. Vous savez, les économistes sont très sourcilleux sur cette question, il faut avoir des connaissances, bien sûr, pour parler d'économie. Mais en fait, l'économie, elle touche à des questions qui intéressent tout le monde. En fait, elle touche à des questions qui sont infra-économiques, je dirais, des questions sociales, des questions qui sont au fondement de l'économie. Je vais commencer par en énumérer quelques-unes, plus précisément cinq questions qui vont nous intéresser dans ce cycle de trois cours. Alors, et vous allez voir que ces questions sont intriquées. Je les sépare, mais en fait, on pourrait très bien aussi, on va voir qu'elles sont mêlées. La première question, c'est celle du besoin et du désir. C'est une question classique de la philosophie qui se formule ainsi. De quoi, de quels objets l'homme a-t-il besoin pour vivre? À savoir, pour vivre humainement, entre guillemets. Que lui faut-il pour vivre? Peut-on même répondre à une telle question? C'est la première question qu'il va falloir poser et qu'on nous poserons aujourd'hui, plus précisément, quand on parle d'économie, avant même de commencer à parler donc, des questions qui sont économiques au sens plus strict du terme. La seconde question qui s'impose est la suivante. Comment répartir les biens dont une société dispose à un certain moment de son histoire ? Faut-il accepter le régime de la propriété privée, par exemple, ou alors aspirer à la mise en commun des biens sur le modèle socialiste ou communiste? Y a-t-il une répartition juste, un modèle juste des échanges? Ce fut la grande question, comme vous savez, de la politique dans les deux derniers siècles, des questions qui ont opposé la droite et la gauche, puisque la droite était plutôt pour laisser la liberté du marché, et puis, alors que la gauche était pour plus de régulation et plus d'intervention de l'État pour instaurer plus d'égalité entre les agents du marché, les agents économiques. Donc, c'est la question de la justice dans son rapport à l'égalité. L'égalité de la répartition, qui est l'idéal des sociétés socialistes. Est-ce que cette égalité est nécessairement synonyme de justice? Et cela nous conduit directement à la troisième question, qui est celle du rapport aux pauvres, au ani, au vion, au dal, en hébreu, la pauvreté, la question de la pauvreté en général. On pourrait formuler la question ainsi, comment se rapporter aux plus faibles, à ceux qui n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins, comme à ceux de leur famille? Peut-on envisager une société d'abondance, une société où la pauvreté serait résorbée? Peut-on imaginer mettre un terme à la condition de pauvreté qui accompagne l'humanité depuis toujours, sans qu'elle puisse endiguer ce fléau? Et comment, au fond, définir exactement la pauvreté? Y a-t-il un seuil de pauvreté, comme on dit aujourd'hui? Quatrième question, celle du sens du travail humain. S'agit-il d'une punition, comme semble le dire le verset en Genèse 3? L'homme est-il condamné au travail comme à une malédiction divine? Ou y a-t-il un sens positif au travail où les êtres humains se développeraient grâce à lui? Et enfin, la cinquième et la dernière question, il faudra s'interroger sur le rapport de l'homme à la nature, puisque le travail humain met en jeu le rapport de l'homme à la nature en modifiant totalement cette dernière. Ce qui nous conduit inéluctablement aux questions les plus brûlantes de notre époque, sur la préservation des ressources naturelles, de notre écosystème, face aux méfaits de la civilisation industrielle et technicienne. Donc vous remarquez que toutes ces questions sont des questions philosophiques universelles. Elles ne sont pas spécifiquement juives, elles ne se réfèrent pas à la Torah. Donc, mais ce sont des questions auxquelles toute société se confronte. Mais face à elles, la Torah a des réponses spécifiques, singulières, auxquelles nous nous intéressons dans ces cours. Donc je vais m'efforcer de présenter ces réponses dans les trois cours que je vais consacrer à ce sujet cette année à l'Université populaire du judaïsme. D'accord ? Aujourd'hui, je vais examiner uniquement la première question, celle du besoin et du désir, qui est celle de ce qu'on appelle communément la société de consommation. Donc, cette première question, elle concerne ce qu'on appelle aussi En d'autres termes, le luxe. La question du luxe. Le produit de la société face à la nature, dirions-nous. C'est la question qui a été soulevée pour la première fois par le XVIIIe siècle et notamment par peut-être le plus grand auteur du XVIIIe siècle qui est Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'inégalité. D'ailleurs, en lointain écho au récit du Jardin d'Éden, mais aussi aux écoles philosophiques antiques, comme par exemple la réflexion d'Épicure sur les désirs naturels ou les désirs nécessaires, ceux qui sont, ou les désirs qui sont ni naturels, ni nécessaires, etc. Alors, je voudrais qu'on lise d'abord premier texte, qui est le texte de Rousseau. C'est important de l'avoir bien en tête pour comprendre de quoi il s'agit ici. Il est tiré du discours sur l'inégalité. Je cite, « L'homme sauvage, quand il a dîné, est en paix avec toute la nature et l'ami de tous ses semblables. S'agit-il quelquefois de disputer son repas, il n'en vient jamais au coup sans avoir auparavant comparé la difficulté de vaincre avec celle de trouver ailleurs sa subsistance. Et comme l'orgueil ne se mêle pas au combat, il se termine par quelques coups de poing. Le vainqueur mange, le vaincu va chercher fortune et tout est pacifié. Mais chez l'homme en société, ce sont bien d'autres affaires. Il s'agit premièrement de pouvoir au nécessaire et puis au superflu. Ensuite viennent les délices et puis les immenses richesses et puis les sujets et puis des esclaves. Il n'a pas un moment de relâche. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions augmentent et équipisées pour le pouvoir de les satisfaire, de sorte qu'après de longues prospérités, après avoir englouti bien des trésors et désolé bien des hommes, mon héros finira par tout égorger jusqu'à ce qu'il soit l'unique maître de l'univers. Tel est en abrégé le tableau moral, sinon de la vie humaine, au moins des prétentions secrètes du cœur de tout homme civilisé. » Et Rousseau ajoute dans une lettre annexe à ce discours, « On croit m'embarrasser en me demandant à quel point il faut borner le luxe. » Voilà le mot, lâcher, le mot de luxe. « Mon sentiment est qu'il n'en faut point du tout. Tout est source de mal au-delà du nécessaire physique. La nature ne nous donne que trop de besoins. Et c'est au moins une très haute imprudence de les multiplier sans nécessité et de mettre ainsi son âme dans une plus grande dépendance. » Fin de citation. Donc vous voyez qu'en fait, ce sont des thèses connues, mais il est important de les rappeler. Rousseau distingue deux types d'hommes, en quelque sorte, de manière tranchée. Donc, il y a l'homme de la nature et l'homme de la société. En disant, l'homme de la nature ne cherche pas à multiplier infiniment les désirs, mais seulement les désirs naturels, ce qu'il appelle le nécessaire. Et Rousseau s'élève contre le superflu, ou ce qu'il appelle le luxe, de la civilisation, qui corrompt la simplicité naturelle en créant des passions inutiles, d'autant plus puissantes qu'elles sont vaines. En fait, toujours selon Rousseau, la civilisation, la société, au fond, c'est la même chose, serait nécessairement synonyme de malheur pour l'homme, tout d'abord parce qu'elle favorise les passions tristes, l'envie, la haine, le ressentiment, qui naissent de la concurrence et de la comparaison entre les hommes, mais aussi parce qu'elle conduit les humains à multiplier leurs désirs sans fin, sans pouvoir jamais tous les assouvir. D'où le malheur, l'insatisfaction perpétuelle de l'homme civilisé. Et ce, alors que l'être naturel sait se contenter du nécessaire et être heureux du peu qu'il a. À Rousseau, Maurice Clavel, au XXe siècle, donc nous passons maintenant au XXe siècle, nous faisons le saut de deux siècles, donc philosophe français de la deuxième moitié du XXe siècle, répond dans un ouvrage qui s'appelle « Qui est aliéné ?» Ça paraît exactement en 1970, et je cite. Je reconnais que notre société de consommation nous crée et nous impose des besoins indéfinis et donc inassouvissables. Mais est-ce bien notre société de consommation? Ou n'importe quelle société? Ou simplement notre condition d'homme? Souvenez-vous du cri du roi Lear devant la dégringolade du train de vie que lui proposent ses filles. Quel besoin avez-vous de 50 serviteurs? Quel besoin d'un? Et lui alors, et on pleure. Ah, ne discutez pas le besoin. Le dernier des mendiants a encore un rien de superflu dans la plus misérable chose. Réduisez la nature aux besoins de nature, et l'homme est une bête. Sa vie ne vaut pas plus. Comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être? Ce n'est pas au Jean-Jacques la société qui crée les besoins, c'est la culture qui crée des besoins et une société. » Fin de citation. Donc ce que Clavel dit en substance à Jean-Jacques, c'est la chose suivante. Jean-Jacques, comme il l'appelle, ne sais-tu pas que l'homme est par nature un être non naturel, qui recherche perpétuellement le non naturel, le luxe, le raffinement, le perfectionnement. D'ailleurs, le mot de perfectibilité, c'était un mot de Rousseau lui-même. Il ne saurait se contenter du nécessaire, précisément parce qu'il est humain, dit Clavel. On ne peut pas réduire l'homme à la nature, donc. L'humain ne serait pas du côté du besoin, besoin toujours animal et qui relève de la nécessité, mais du désir, donc du côté du désir toujours renouvelé. Un désir qui porte précisément sur le non nécessaire, donc sur ce qui pourrait être considéré comme du luxe, par Rousseau. Selon Clavel, il est impossible de tracer une ligne de frontière claire entre le nécessaire et le non nécessaire. Car au fond, tout en l'homme relève du non nécessaire. Le reste ne relève que de la part animale en l'homme. Débat difficile, épineux, car on sent que les deux positions se tiennent. Rousseau a raison de s'élever contre l'excès de luxe, source de corruption morale et d'inégalité. Et Clavel a tout autant raison de dire qu'au fond, l'homme n'est rien d'autre que le désir, à savoir désir de luxe, au sens le plus général du terme, à savoir une vie qui excède les besoins physiques. En ce sens, il est difficile, voire impossible, de tracer une frontière entre désir nécessaire et non nécessaire. Question essentielle. Y a-t-il un degré zéro du besoin ou du désir? Qu'est-ce que la civilisation dans son ensemble, sinon la poursuite des désirs à l'infini? Cette question renvoie à cette autre. En quoi sommes-nous des hommes et non simplement des bêtes commandées par le besoin? J'en viens maintenant à la position de la Torah sur cette question. Et c'est ce qui va nous occuper maintenant. Comment juge-t-elle la richesse, l'argent, le luxe, de manière générale? Alors la réponse n'est pas simple, et il faut ici examiner attentivement les textes. Je commence par une proposition très connue, une proposition tirée des Maximes des Pères, de Pirkei Avot, qui dit « Qui est riche? Celui qui est heureux de sa part. » Ashir à sa mère Bechelko, c'est en 4.1. Comment la comprendre? La richesse ne saurait être mesurée objectivement, mais elle se donne à travers la perception subjective de chacun. Et précisément, le riche n'est pas celui qui possède d'immenses richesses, qui accumule l'argent et l'or, mais celui qui sait se contenter de ce qu'il possède, même s'il s'agit de possessions modestes. Car il n'a besoin de rien, comme le dit le psaume « Dieu est mon berger, rien ne me manque ». Hachem roi lo echsar. Je ne ressens aucune frustration liée au manque, à la pénurie. Derrière cette perception, il y a cette confiance en Dieu, confiance que Dieu sait ce qui me revient, ma part ou la part à moi destinée dans ce monde. Mais il importe de revenir au commencement, à savoir au livre de la Genèse. Si l'on se tourne rapidement de ce côté, qu'observe-t-on? Alors il faut revenir au Jardin d'Éden. Parce que le Jardin d'Éden, c'est le point zéro de l'histoire, où c'est même un état d'avant toute société, d'avant toute histoire, où l'homme n'aurait pas besoin de travailler, parce qu'il se trouve d'emblée dans une société d'abondance. Abondance accordée par Dieu lui-même, comme le dit le verset, je cite, en Genèse 1, 29. Dieu ajouta, « Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la surface de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe, ils serviront à votre nourriture. » Et quelques versets plus loin, il est dit, en Genèse 2, 15, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme, et Adam, en fait, et l'établit dans le jardin d'Éden, Gan Éden, pour le cultiver, l'Éovda, la travailler, et la soigner, le Shomra, la garder, si vous voulez. » Alors, que signifie d'abord cultiver et soigner? Est-ce déjà un précepte écologique avant la lettre? Sans doute, puisque l'homme doit préserver le jardin, qui est au fond ce que nous appelons la nature. Mais l'état de nature n'existe pas dans la Torah. Comme la nature au sens grec ou moderne n'existe pas tout simplement, puisque ce qui existe, c'est la création. Au commencement, Elohim créa, Bereshit, bara, Elohim. Et l'homme doit préserver le cadeau, ce jardin qui est le cadeau qui lui a été fait par Dieu. C'est seulement après la faute, une fois qu'Adam et Ève sont punis par Dieu, on pourrait discuter, est-ce que c'est vraiment une punition, mais je ne rentre pas dans ce débat. Une fois qu'ils sont punis par Dieu pour avoir mangé du fruit de l'arbre, que le travail apparaît sous la forme de l'effort. Et là, il faut citer encore une fois deux versets importants, en Genèse 17, 19. Et à Adam, il dit, « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi. Arura Adama Avurecha. C'est avec effort que tu tireras ta nourriture tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et des livrées, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. Et on se souvient de ces versets, évidemment. Bezeat apecha tochal lachem. C'est à la sueur de ton front, de ton nez littéralement, que tu mangeras ton pain. Le travail lié à l'effort qui fait transpirer, donc, zéa, les azia, est nécessaire, désormais, pour faire sortir le pain de la terre. Est-ce à dire qu'il s'agit d'une malédiction? On pourrait le penser, car il est même dit explicitement que la terre est maudite, arura, à cause de l'homme, bavura. Mais cette malédiction pourra se transformer en bénédiction si l'homme se sera porté adéquatement à la terre, au jardin et à la création en général. Car maintenant, il s'agit de se perfectionner, de tirer de la terre ce qu'elle peut nous prodiguer, ce que Dieu a potentiellement mis en elle pour l'homme. L'agriculture va naître et le pâturage, ce sera déjà respectivement les deux activités de Abel et de Caïn. Caïn a Oved Adama, et Evel a Roetzon. Passons maintenant rapidement à ce que le texte de la Genèse nous dit des patriarches en regard à leur état social et économique. D'un côté, le texte nous le dit abondamment, à plusieurs reprises, que nos patriarches étaient riches, que Dieu les avait comblés de tout bien. Bacol. Citons simplement les versets concernant Abraham. En Genèse 13, 2, « Or Abraham était puissamment riche en bétail, en argent et en or. » Et plus loin, Genèse 24, 1, « Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. »« Vehachem berach et Abraham bacol. » Les versets insistent à plusieurs reprises sur la richesse d'Abraham. En Genèse 13, 3, par exemple. Donc la richesse serait une bonne chose, une grâce divine, littéralement une bénédiction. De l'autre côté, rappelons-nous la prière que Jacob adresse à Dieu. En Genèse 28, 20, donc Jacob se tourne vers Dieu, c'est au moment où il s'enfuit de son frère Ésaü, et il dit la chose suivante, « Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me couvrir, « Lechem lechol vebeged lilvosh » Fin de citation. Donc, Jacob sait se contenter des désirs naturels et nécessaires, on dirait, nous dirions pour parler comme Épicure, pour parler comme Rousseau. Aucun luxe, aucun désir de richesse. Pourtant, lui aussi va s'enrichir, à la suite des années de travail chez Lavan. Pas de complexe donc vis-à-vis des richesses, des biens matériels. L'homme peut en user à condition de savoir que tout, ultimement, appartient à Dieu. L'Hachem haaretz umloa. À Dieu appartient la terre et tout ce qui est en elle, comme dit le psaume. En vérité, pour saisir la position de la Torah sur la consommation et le luxe, il faut se tourner maintenant vers le livre de l'Exode et étudier l'épisode célèbre de la manne dans le désert. Épisode porteur de riches enseignements à cet égard. Le pain figure au centre de l'épisode de la manne en Exode 16. Donc ce pain qui était apparu en Genèse 3, il fallait le faire tirer de la terre mais à la sueur de notre front. Maintenant il réapparaît, mais très différemment vous allez voir. Il s'agit d'un pain céleste, un pain littéralement du ciel, non pas de la terre, mais qui vient du ciel, min hashamayim. Évidemment, dans le désert, on ne peut pas tirer le pain de la terre, puisque la terre n'est pas fertile. De quoi s'agit-il dans cet épisode? Les enfants d'Israël vont se languir, ils viennent de sortir de l'Égypte, et ils vont se languir du pain mangé en Égypte, et également de la viande, les marmites de viande, sir à bassar. Je lis les premiers versets de cet épisode en Exode 16. Puis ils partirent d'Élim, ils arrivèrent toute la communauté des enfants d'Israël au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et Sinaï. C'était le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans ce désert, et les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande ?» Sir al-Sir Abassar. « Nous rassasions de pain. » D'accord? Là, encore une fois, ils évoquent le pain. Beochlenu lechem la sova. Tandis que vous nous avez amené dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim tout ce peuple. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Littéralement, lechem min hashamayim, donc du pain céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision. Et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Etc. Fin de citation. Ici, le pain donc tombe du ciel, littéralement. C'est le renversement de la punition d'Adam, où il devait faire sortir le pain de la terre qui était maudite et à la sueur de son front. Ici, pas d'effort en apparence. Le pain tombe de lui-même. Ou c'est Dieu qui le fait tomber. Mais bon, c'est Dieu qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler un miracle. Mais alors, que signifie précisément ce miracle? Comment le comprendre? Ma méthode de lecture, en général, consiste à aller au-delà du miracle, qui est une lecture au premier niveau, pour scruter le sens du récit. Cela vaut pour la manne, comme pour l'ouverture de la mer des joncs ou le Sinaï. Tout doit être compris à partir de son contenu de sens. C'est le sensé qui m'intéresse, qui fait sens pour nous également aujourd'hui. Donc, est-ce une métaphore? C'est ce que dit explicitement le regretté Michel Attali dans un article qui est tiré de ce dossier dont je vous avais parlé au début de ce cours, hein, Judaïsme et économie, à la page 35 de ce dossier de Pardès. Il écrit, c'est un article consacré spécifiquement à l'épisode de la manne, je cite, « En réalité, l'épisode de la manne les décaille sans qu'ils aient besoin de nier leur existence, réelle, peut être considéré comme une immense et très fine métaphore des échanges commerciaux et économiques interhumains sur la base de lois bien précises, liées ici au sentiment de satiété lui-même, rattaché au très subtil problème de l'abondance et de la pénurie. » Fin de citation. De manière générale, l'épisode de la manne serait peut-être à lire comme le tikkun de la punition d'Adam, à qui il est dit « tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Je reviendrai maintenant sur cette question d'abondance et de pénurie qui, apparemment, selon la lecture de Michel Attali, est au cœur des enjeux de cet épisode. Ici, comme je l'ai dit, pas de sueur pour faire sortir le pain de la terre, mais le pain vient d'en haut, sans effort en apparence. Économie de grâce, comme le dit Michel Attali, d'une société d'abondance, sans doute. Économie messianique, peut-être. Deux signes à cela. D'une part, l'apparition du Shabbat au travers de ce récit, puisque tout le récit est orienté, je vous le rappelle, sur l'annonce du commandement du Shabbat, dont le commandement surgit ici avant même les 10 paroles du Sinaï. Or, le Shabbat est une préfiguration des temps messianiques. D'autre part, le pain qui descend du ciel, c'est le pain qui arrive par grâce, en abondance, sans limite en apparence. Il désigne la générosité pure de Dieu, le don absolu. Toutefois, l'épisode de la manne porte encore un autre enseignement plus essentiel, selon moi. En vérité, les deux enseignements se complètent, comme le fait remarquer, à juste titre, Michel Attali, que je suis ici. Selon moi, cet enseignement porte sur la consommation, sur les besoins fondamentaux de l'homme et les moyens de les assouvir. Bref, sur la mesure. Et nous retrouvons le débat entre Rousseau et Clavel. Je cite ici quelques versets à la suite, donc toujours en en Exode 16. Maintenant, on est au verset 16. Voici ce qu'a prescrit l'Éternel. Recueillez-en chacun selon ses besoins. Le verset dit explicitement « Ish lefi ochlo ». Un homère par tête. Autant chacun a de personnes dans sa tente, autant vous en prendrez. Ainsi firent les enfants d'Israël, ils en ramassèrent l'un plus l'autre moins, puis ils mesurèrent à l'homère. Or celui qui en avait beaucoup pris n'en avait pas de trop, et celui qui en avait peu n'en avait pas faute. Chacun avait recueilli à proportion de ses besoins. Toujours la même expression, Ish lefi ochlo. Moïse leur dit que nul n'en réserve pour le lendemain, etc. Et l'expression qui revient encore une troisième fois est « ish kefi ochlo », donc « lefi » ou « kefi ochlo », chacun selon sa nourriture, littéralement. C'est l'expression qui revient à trois reprises, qui est ici traduite par « selon ses besoins », en fait littéralement c'est « selon sa nourriture ». Les enfants d'Israël mangent la manne, chacun selon sa nourriture. Il y a donc une mesure à la nourriture, ce qui est désigné par une unité de mesure, d'ailleurs, spécifique, le homer. En apparence, elle est universelle, mais en réalité, elle ne l'est pas, puisque précisément, pas tout le monde mange la même quantité, mais chacun mange à sa mesure, lefi ochlo. Paradoxe, d'ailleurs, je vous rappelle que dans l'agneau pascal, également, on disait qu'il fallait en manger chacun selon sa nourriture, la même expression, ish lefi ochlo. Paradoxe ou véritable miracle, comme le signale ici Rashi, pour essayer de comprendre comment on peut articuler ensemble Omer, la mesure universelle, et la singularité des besoins de chacun. Chacun doit se conformer à sa propre mesure, mais il y a également une sorte d'étalon qui vaut pour tous. Le Omer, étalon qui permet d'articuler le chacun au tous, à la collectivité. Chacun doit connaître ses propres besoins, qui sont individuels, comme le dit le verset. Sans s'empiffrer inutilement et bêtement, comme on le fait trop souvent aujourd'hui à l'ère de la société de consommation. C'est justement, c'était le problème de Rousseau, c'est qu'on crée artificiellement sans cesse de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. Sans, donc ici, il ne s'agit pas de nouveaux besoins ni de nouveaux désirs, il ne s'agit pas non plus d'accumuler ou de thésauriser, puisque la manne présuppose qu'on n'accumule pas. À chaque jour, ça part. Dvar yom beyomo. Le désir d'accumuler suppose une angoisse du lendemain, une cupidité parfois, qui doit disparaître de l'économie messianique. Ainsi, à travers cet épisode, nous voyons comment la grâce et la stricte justice, le din, on peut dire le chesed, le din, se complètent. Le pain est donné par grâce divine, en abondance, mais il est strictement mesuré, compté pour chaque jour, pour chaque un. Il s'agit aussi de l'épreuve de la patience et de la foi, comme l'illustre l'interdit de la réserve du stock d'amassage en excès. Il faut manger chaque jour ce qui tombe du ciel le jour même. Belle leçon pour nous qui vivons à l'ère du capitalisme, des banques et des comptes d'épargne. En effet, le texte dessine ici une économie à rebours de toute la logique capitaliste, fondée sur le profit, sur l'accumulation du capital en banque qui enfante du capital, etc. Alors, de quoi parlons-nous au fond quand nous parlons de la manne? En bon français, c'est un nom populaire, c'est un nom vulgaire, mais la bouffe, hein, puisque ça concerne l'ordre bas, un ordre bas de l'existence, d'accord, celui du ventre. Et plus spécifiquement, un aliment de base qui est le pain. Mais s'agit-il réellement de cela? S'il s'agit vraiment de la bouffe, est-ce qu'il faut en faire un fromage pour filer la métaphore? En fait, il ne s'agit pas simplement de la nourriture, puisque ça relève, la nourriture relève aussi toujours d'une cérémonie sociale, de certains codes culturels. En fait, c'est vrai, nous ne mangeons jamais comme les animaux, en nous jetant sur une proie pour la dévorer, mais on mange sur un mode humain, plus codifié. Par exemple, nous avons institué des heures de repas, des cérémonies de repas, donc des repas de famille, entre amis, un repas festif ou convivial à la bonne franquette, un buffet, etc., etc. Reste que la nourriture nous accompagne tous les jours de notre vie, sans discontinuité, de notre naissance à notre mort, sauf les jours de jeûne, évidemment. Alors, on pourrait s'intéresser à la modalité de l'apparition de la nourriture dans la Torah. Que mange-t-on? Qui mange? Et quand? Qu'a-t-on le droit de manger? Et qu'est-ce qui est interdit? Comment produire la nourriture? La Genèse nous le dit par le travail de la terre, qui nécessite un effort certain, la sueur de notre front. Avec la manne, c'est encore autre chose. À travers ce pain mystérieux tombé du ciel, surgissait un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'une société d'abondance? Où il y a suffisamment pour tous? Où Dieu pourvoit la nourriture sans que nous ayons à faire le moindre effort pour la préparer et la consommer? N'est-ce pas l'économie messianique qui se laisse annoncer à travers la mention du Shabbat au cours du récit de la manne? Plus encore, ce pain céleste nous enseigne aussi, et peut-être avant tout, ce que signifie nous satisfaire de notre part, de notre portion, mana en hébreu, on a vu, sans surconsommer, sans s'empiffrer ou se goinfrer, comme on le fait trop souvent aujourd'hui dans les sociétés de consommation. Alors nous avons vu que ce pain était une vaste métaphore qui renvoie aux besoins humains et à leur possible régulation. Mais s'agit-il réellement de pain? Rien de moins sûr. Puisque nous savons que le pain est produit à partir de la terre, tandis qu'ici, il vient du ciel, précisément. Le livre du Deutéronome, de Devarim, nous disait d'ailleurs qu'il s'agissait en fait de la parole de Dieu. Il tient lieu de la parole de Dieu. Je cite un verset très important ici, en Deutéronome 8, 3, 4. « Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue, et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut y vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. » En hébreu, « Lo al alechem levado ichi adam, ki al motza pi adonai ichi adam. » En d'autres termes, ce que nous disent ces versets étonnants, c'est que le pain du ciel n'est pas réellement du pain, mais la parole de Dieu, le Verbe du Seigneur. Autrement dit, l'épisode de la manne nous indiquerait que l'homme ne devrait pas vivre uniquement de pain, mais de la parole de Dieu. Au même livre du Deutéronome, nous trouvons un autre verset très étonnant, qui va dans le même sens. Il s'agit de Moïse relatant son expérience sur le mont Sinaï, où il dit « Pain je n'ai mangé, ni eau ni bu, pendant 40 jours » en 9-9. « Arbaim yom v'arbaim laila, lechem lo achalti, v'maim lo shatiti. » Qu'entend Moïse par là? Qu'il vivait littéralement de la parole de Dieu, que cette parole le nourrissait, sans faire attention, donc il ne prêtait plus attention à ses besoins les plus élémentaires, au boire et au manger, besoins physiques. Il vivait dans une telle élévation spirituelle qu'il en avait oublié ses besoins les plus élémentaires, le boire et le manger. À partir de là, j'aimerais aborder un commentaire du Zohar qui porte précisément sur ces questions. Il s'agit du Zohar sur la paracha de Béchalach, à la fin de la paracha de Béchalach, qui porte sur la manne. Quel est le propos de ce vaste commentaire qui brasse plusieurs thèmes? Alors, je vais citer ici le Zohar, c'est un petit peu long, il faut prendre son souffle. Et après, je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Ça commence par une vision mystique qui est introduite au thème de la manne. « Viens et vois », écrit le Zohar. « Tous les jours, une rosée s'épanche de l'ancien saint, Atika Kadisha, vers le petit visage, Zeir Anpin. Et tous les champs de pommes saintes en reçoivent une bénédiction. Et cette rosée se répand sur ceux qui sont en bas, et les anges saints s'en nourrissent, chacun en fonction de sa consommation propre. Les filles Ma'achalo. D'où il est écrit, tous eurent à manger de ce pain de délices, l'Echem Abirim, pain de chevalier. Il leur avait envoyé des vivres à satiété. C'est en psaume 78, 25. C'est cette nourriture que les enfants d'Israël consommèrent dans le désert. Et voilà, là, donc, on commence à parler maintenant de la manne. Rabbi Shimon dit, combien de fils d'Adam se nourrissent encore aujourd'hui de cette nourriture? Et qui sont-ils? Ce sont les compagnons qui étudient la Torah jour et nuit. Il s'agit des compagnons qui étudient le Zohar, évidemment. Quand chaque fois qu'il parle des Haverim, ce sont les mystiques, les compagnons d'études du Zohar, du Sod, du secret de la Torah. Mais imagines-tu qu'il s'agit de la même nourriture exactement? Non, bien sûr, mais d'une nourriture qui lui ressemble, qui vaut deux fois pour une part. Viens et vois. Lorsqu'Israël sont entrés et ont adhéré au roi des rois, grâce à la révélation du Sceau Saint, du Rocher Makadosh, alors ils ont mérité de manger un pain différent, supérieur à celui qu'ils avaient mangé précédemment. Auparavant, au moment de sortir d'Égypte, ils sont entrés dans un pain appelé Matzah. Et maintenant, ils ont mérité de manger d'un pain différent, un pain supérieur venu d'un lieu supérieur, car il est écrit « Je vais faire pleuvoir sur vous du pain céleste, min hashamay, du ciel réellement. » À ce moment, à cette génération, Israël reçut de ce lieu-ci. Les compagnons qui étudient la Torah sont nourris d'un lieu autre, supérieur aux autres. Quel est-il? Il est écrit « La sagesse prolonge la vie de ceux qui la possèdent » dans l'Ecclésiaste 7. Littéralement, « donne la vie », techayel. Le verset en hébreu dit « Achorma techaye behalea ». Rabbi Elazar lui demanda « Si c'est ainsi, pourquoi les compagnons d'études semblent plus faibles dans leur être que les autres hommes? Car ceux-ci semblent plus forts, plus vigoureux que les compagnons d'études. » Rabbi Shimon lui dit « Tu as posé une bonne question. Viens et vois. Toutes les nourritures des fils du monde, elles viennent d'en haut. Car la nourriture qui vient du ciel et de la terre, c'est la nourriture de tous. Tout le monde s'en nourrit. Il s'agit d'une nourriture brute, épaisse. Or, cette nourriture qui vient de plus haut est plus fine. » Elle vient du lieu où se tient la mesure du jugement. Et c'est là la nourriture mangée par Israël en sortant d'Égypte, la nourriture qui s'est trouvée pour eux dans le désert à ce moment-là, issue d'un lieu en hauteur appelé ciel, Shamaï. C'est une nourriture plus fine, qui entre plus que les autres dans l'âme, qui est plus séparée du corps et est appelée pain des chevaliers, l'Echem Abirim. La nourriture la plus élevée de toutes, c'est celle que consomment les compagnons d'études, qui s'adonnent à la Torah, lesquels se nourrissent d'une nourriture de l'esprit et de l'âme et ne mangent aucune nourriture corporelle. Et cette nourriture plus élevée, honorée de tous, est appelée sagesse, chokhma. Et pour cette raison, le corps des compagnons est plus faible que celui des autres fils du monde, car ils ne mangent pas, qu'ils ne mangent aucune nourriture corporelle, mais une nourriture faite d'esprit et d'âme, issue d'un lieu lointain, plus élevé, plus honoré que tout. Pour cette raison, cette nourriture est plus fine que toute chose, d'une extrême finesse. Heureux sont-ils, heureuse est leur part. D'eux, il est dit, la sagesse fait vivre celui qui la possède, donc achorma techaye bealea. Et heureux la part du corps qui peut se nourrir d'une nourriture de l'âme. Rabbi Elazar lui demanda, certes, mais aujourd'hui, comment ces nourritures se trouvent-elles parmi nous? Vous voyez donc, en fait, Rabbi Elazar ramène un peu son père sur terre en lui disant, mais finalement, comment traduis-tu ce que tu dis dans les faits, dans la réalité concrète? Et Rabbi Shimon lui répondit, Bonne question. Voici le secret de la chose. La première nourriture est celle destinée à tous. C'est la nourriture du ciel et de la terre. C'est la nourriture destinée au corps. Or, la nourriture plus élevée que celle-ci, plus fine aussi, celle-ci vient d'en haut, d'un lieu où se tient le jugement, lieu appelé Tzedek, justice. Et c'est la nourriture des pauvres. Le secret de la chose, celui qui donne, qui complète Mashlim aux pauvres, il complète avec une lettre, la lettre Hey, le Tzedek, et en fait la Tzedaka. C'est là le secret du verset « L'homme empli de grâce donne à son âme ». Gomel nefesho, ish chesed, dans Proverbe 11. Il s'agit des bonnes œuvres des Milut Hasadim, car il se tient dans le jugement et il lui a complété avec la grâce, le chesed, et alors il devient miséricorde, rachamim. Hein, on reconnaît le trio des mesures de Dieu, des séphirot, chesed, din, rachamim. Et alors que chesed et le din se complètent pour faire... donner rachamim. Et je termine avec la citation du Zohar. Une nourriture plus élevée encore que cela, plus honorée que le lieu appelé ciel, plus forte que toutes les autres, c'est la nourriture des malades. Comme il est écrit, l'Éternel le soutiendra sur le lit de douleur, sa couche, tu la retournes entièrement dans sa maladie. En psaume 41.4. L'Éternel exactement. Et pourquoi? Parce que les malades ne se nourrissent que de la nourriture du Saint béni soit-il. Et quelle est-elle? De la graisse et du sang. Comme il est écrit, quand vous me présentiez mon pain, graisse et sang, en Ézéchiel 44. Mais la plus haute nourriture est celle des compagnons qui étudient la Torah, car elle vient d'une sagesse supérieure. Et on revient toujours sur cette idée que les compagnons d'études se nourrissent d'une sagesse supérieure, au-delà même de la manne, qui est déjà un pain supérieur. Vous voyez, donc il y a ici une gradation, une hiérarchie entre les différentes nourritures. Alors, que penser de ce passage que je viens de traduire d'ailleurs en français, que pensez de ce passage passablement obscur du Zohar? Finalement, quelle est la question à laquelle il entend répondre? Je la formulerai ainsi. Quelle est la fonction que remplit la nourriture dans notre psyché? Est-ce seulement une question d'alimentation? Qu'est-ce qui nous nourrit réellement? Peut-on se nourrir d'autre chose que de pain? Certaines expressions françaises semblent l'indiquer, comme par exemple celle qui parle d'un homme amoureux qui vit d'amour et d'eau fraîche. Se pourrait-il que dans certaines situations psychiques, nous ayons besoin de moins de nourriture terrestre, au sens le plus alimentaire du terme? Le Zohar élabore son commentaire sur le fond d'une pensée foncièrement dualiste, de provenance néoplatonicienne antimatérialiste. Le pain céleste serait une nourriture plus fine, une sorte de sagesse supérieure qui nourrit son homme, autrement que le pain grossier qui sort de la terre. C'est une réflexion remarquable sur l'aspect psychique, psychosomatique même de la nourriture, sur ce qui nourrit les hommes. Pain grossier ou pain divin, supérieur, qui serait une métaphore de la parole divine, comme le dit le livre du Deutéronome explicitement. Vision élitiste, aux êtres grossiers du commun convient la nourriture grossière, mais aux êtres d'élite, plus fins, convient une nourriture plus fine, qui nourrit moins le corps, mais plus l'âme, ou seulement l'âme, quelque part. La sagesse, pour parler le langage du verset des Proverbes, qui est mentionné ici, cité par le Zohar. Selon cette conception, les êtres moins matériels se nourriraient moins. Ils préféraient aux nourritures terrestres les nourritures spirituelles, pour parler comme Gide, seules à même de les nourrir et de les rassasier, contrairement au commun des mortels de facture plus vulgaire. Réflexion qu'on pourrait prendre pour base pour expliquer les dysfonctionnements alimentaires comme la boulimie, l'anorexie, qui relèvent de troubles psychiques souvent graves. L'alimentation, les dysfonctionnements alimentaires témoignent du caractère psychosomatique de l'être humain, où la psyché est enracinée dans le corps, comme le veut la psychanalyse freudienne. Alors, paradoxalement, ce passage du Zohar, enraciné dans un schéma platonicien classique, dualiste, comme j'ai dit, annonce ainsi la pensée psychosomatique de la psychanalyse, où le corps est la source, l'origine des pulsions qui se dirigent vers la psyché. Je conclue le premier cours. L'épisode de la manne dessine les contours d'une économie fondée sur la plénitude et l'abondance, et non la pénurie et la rareté, au centre de laquelle se tient la figure du pauvre, comme nous le verrons. C'est le sens de l'épisode des cailles et de la manne céleste que Dieu envoie à Israël dans le désert. Ici, pas de pénurie, mais abondance de nourriture. Et en même temps, chacun doit savoir se contenter de sa part, qui est le sens même du mot man en hébreu, mana, part singulière à moi destinée. C'est le retour à l'abondance édénique, loin de la surconsommation de notre monde. Et en même temps, c'est précisément la réponse à notre question. Y a-t-il un bien qui puisse me contenter? Un bien nécessaire au-delà duquel je me gaspillerai dans une surconsommation inutile. La Torah nous dit c'est la part de man, la man en hébreu encore une fois qui est la mana, la part ou portion. La man doit me suffire chaque jour. Le jour du Shabbat, je ne dois pas aller en chercher car je reçois deux parts le vendredi. précisément, Dieu nous l'envoie pour nous éprouver, pour savoir si nous allons avoir confiance que cette double portion nous suffira pour deux jours. Mais certains sortent le jour du Shabbat pour ramasser encore et encore. Voilà leur faute, terreur de manquer ou avidité à pas du gain. Dans les deux prochains cours, nous aborderons la question sociale proprement dite. Quelle est la position de la Torah à l'égard des pauvres, de la pauvreté? Qu'est-ce que la tzedaka? C'est la charité, c'est la justice, c'est la générosité? Et comment penser la propriété privée à partir de la Torah? À très bientôt.